RFI. La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
My name is Richard Kapuscinski. I work for the Polish Press Agency. Their only foreign reporter, covering 50 countries around the world. A new Africa is being born in Angola. There is no way I wasn't going to be here. And this is Luanda, city of paranoia, city of chaos, my favorite. Welcome to my cage.
Son nom est Richard Kapuscinski, il travaille pour l'agence polonaise de presse et il est le seul reporter étranger à couvrir la guerre civile en Angola au lendemain de l'indépendance accordée par le Portugal en 1975. Une plongée dans le chaos, l'utopie et la violence dont il ressortira miraculeusement vivant. Cette histoire vraie est racontée dans le film Another Day of Life, une super production en images d'animation réalisée par Raoul de la Fuente et Damien Nenoff, présentée en avant-première du Carrefour du cinéma d'animation à Paris le 12 décembre prochain. Quel est ce nouveau genre cinématographique? Comment le définir et qu'apporte-t-il à l'écriture de l'histoire? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui à l'écoute de plusieurs films, de Valls avec Bachir à Samouni Road, en passant par les films sélectionnés en avant-première par Isabelle Vanini pour son rendez-vous annuel Carrefour de l'animation par le Forum des images. Bonjour Isabelle Vanini.
Bonjour.
Vous êtes l'une des meilleures spécialistes du film d'animation en France. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous passionne dans ce genre ?
Ce qui me passionne, c'est le côté très inventif, plastique. C'est souvent un cinéma de plasticien, multitechnique et toutes les possibilités que permet l'animation que ne permet pas l'image réelle. Et on va le voir sans doute en parlant du film Another Day of Life, notamment, comment immerger un spectateur dans la guerre. L'animation va pouvoir permettre des choses que ne permet pas l'image réelle.
Alors justement, pourquoi avoir choisi Another Day of Life en ouverture de votre rendez-vous Carrefour du cinéma d'animation?
Alors nous, c'est un film qu'on guette depuis 5 ans. On espérait le présenter dans Carrefour il y a très longtemps. C'est un film qui est en production depuis une dizaine d'années. C'est une coproduction très lourde. C'est effectivement un film gros budget, beaucoup d'effets spéciaux, l'animation est chère. Et c'est un film dont on attendait beaucoup, justement parce que ce qu'on appelle le documentaire animé en court-métrage, ce dont on parle depuis des années, a commencé à arriver en long-métrage avec Valls avec Bachir. Mais une série de films devait arriver et a un petit peu tardé à arriver, dont ce Another Day of Life, qui nous semblait tout à fait intéressant, puisque là, il y avait vraiment l'association d'un documentariste et d'un réalisateur d'animation pure et dure.
Alors effectivement, Another Day of Life, c'est l'adaptation d'abord d'un livre de Richard Kapuscinski, D'une guerre l'autre, qui est sans doute son livre le plus personnel, où le journaliste assume son changement de point de vue du journaliste à l'écrivain. Il n'est plus seulement le reporter qui envoie des dépêches factuelles sur le déroulé de la guerre civile. C'est un homme qui choisit son camp, celui du MPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola, soutenu par l'Union soviétique et bien sûr Cuba. Le film d'ailleurs héroïse complètement les figures du mouvement, comme la camarade Carlota, qui est la jeune égérie du mouvement MPLA, Isabelle Vanini.
Oui, dont on tombe amoureux tous dans le film, il faut bien le dire. Oui, le film nous permet de connaître tous ces personnages que le grand public ne connaît pas. Moi-même, j'avoue que voilà, la guerre en Angola en 1975, je n'en connaissais pas grand-chose. Et on découvre donc cette figure qui fascinera le journaliste, évidemment, à travers son personnage animé reconstitué, mais aussi à travers des photos et des images d'archives, puisqu'on la voit dans le film. C'est l'avantage du documentaire. documentaire animé qui mêle différents types d'images.
Alors on découvre cette égérie du MPLA, la camarade Carlotta, ou encore Farouchko, le commandante du MPLA qui tient le front du Sud à 1500 km de Luanda, la capitale angolaise, une figure extrêmement romanesque que les réalisateurs du film Another Day of Life ont retrouvé.
Je m'appelle Antonio Farouchko.
Soy natural de Portugal.
Je suis né au Portugal. La première image qui me vient a changé ma vie pour toujours. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens d'un petit enfant qui portait de vieux vêtements en lambeaux, sales.
Então gritavam, dá-me um escudo, dá-me um pão.
Il me criait, donne-moi une pièce, donne-moi du pain. Ça m'a rendu triste.
Aqui estamos iguais como estava lá na minha terra.
Et j'ai pensé, ce gamin vit la même chose que moi dans mon pays. Ce petit garçon aux pieds nus m'a rappelé mon adolescence. Je n'étais pas venu pour défendre quoi que ce soit. J'étais venu pour opprimer, je pense. Je faisais partie des forces spéciales. J'avais 24 ans. Ça a été très difficile à vivre pour moi de devoir choisir mon camp, celui des plus défavorisés. Ça a été très difficile de survivre sur le front. Il était si vaste. Je n'avais pour tenir qu'une poignée de guerrieros et la bonne volonté des sympathisants du MPLA, le peuple. Kapuscinski est resté avec moi plusieurs heures. Nous avons parlé de mon fils, de l'ironie de la vie. Mon fils a été assassiné par l'UNITA. Ils l'ont tué uniquement parce que j'étais le général Farouchko et qu'il connaissait mon existence. Une vendetta. Beaucoup de parents ont perdu leurs enfants. Je n'étais pas le seul.
Le témoignage du commandante Farouchko dans le film Another Day of Life, où les séquences réelles et documentaires sont minoritaires, Isabelle Vanini, par rapport aux séquences d'animation. Et d'ailleurs, on passe souvent de l'animation au réel par les photographies réelles que Richard Kapuscinski ont pris en 75 en Angola.
Oui. Il y a différentes manières de faire du documentaire animé. Là, il se trouve qu'effectivement, l'animation est prédominante dans le film. Ils ont tourné avec des comédiens, ce qu'on appelle la motion capture, c'est-à-dire que des comédiens ressemblant du coup aux protagonistes jouent toutes les scènes avec des capteurs, et ensuite tout sera redessiné
par l'ordinateur.
Voilà, donc c'est très très coûteux, mais c'est un choix qu'ils ont fait parce qu'ils ont éprouvé le besoin de reconstituer en animation toutes ces scènes avant d'arriver plusieurs fois donc dans le film à effectivement des images plus documentaires, alors soit des images tournées en Angola aujourd'hui, soit effectivement des interviews plus classiques des protagonistes encore vivants. Donc dans le cas de Farouchko, c'est vrai que c'est très très émouvant de soudain le découvrir aujourd'hui encore vivant, parce que dans le film, voilà, on a l'impression que c'est un espèce de héros qui va forcément mourir. Enfin, c'est impossible que cet homme survive. Et là, soudain, il est interviewé aujourd'hui, vivant, et il raconte toute cette histoire. Donc c'est vrai que l'arrivée de l'image réelle aujourd'hui des interviews est complètement poignante, quoi. Et il y a effectivement, ce qui est très émouvant dans le film, c'est aussi de voir les photos faites par le journaliste à l'époque, quoi, avec tous ces gens donc âgés de 22, 25 ans.
Et d'ailleurs, c'est toute la question du nouveau journalisme incarné par la figure mythique, mais aussi polémique, hein, de Richard Kapuscinski, qui est posée dans ce film. Écoutez, le vrai Richard Kapuscinski, nous avons retrouvé sa voix dans les archives de l'INA, un document rare.
Przede wszystkim ja pracowałem jako dziennikarz w dwóch różnych.
Avant tout, j'ai travaillé comme journaliste de deux manières différentes.
Pierwsza to było, kiedy byłem korespondentem agencji prasowej.
La première, lorsque j'étais correspondant dans une agence de presse. À l'époque, je travaillais comme tous les correspondants d'agences de presse, c'est-à-dire que j'envoyais quotidiennement des informations que j'essayais d'obtenir et de transmettre. Puisque je travaillais dans le tiers-monde, dans les pays du tiers-monde, je me suis vite rendu compte que cette forme brève des dépêches ne reflétait pas le monde que je voyais.
Ja nie odzwierciedlam rzeczywistego świata, który widzę.
Que la langue dont nous nous servons dans l'information, dans la dépêche, était une langue très pauvre, très superficielle, très formelle, et que le monde que je voyais était beaucoup plus riche, plus diversifié. Plein de toutes sortes de contradictions et de problèmes, et que je devais chercher un autre moyen de raconter ce monde. Ceci m'a mené vers l'écriture de mes textes, de mes reportages. En fait, nous appelons cela le reportage littéraire. On l'appelle aussi le nouveau journalisme. Le nouveau journalisme, c'est une méthode d'écriture où nous prenons les faits authentiques, les personnes authentiques, les événements authentiques. Mais nous nous servons d'outils littéraires pour exprimer toute cette richesse et la profondeur de ce monde. Puisque la langue de l'information journalistique ne peut pas nous raconter les couleurs, les parfums, l'ambiance, ni la lumière, tout cela est impossible à raconter. Et pourtant, tout cela constitue l'image de la vie que nous côtoyons. Par conséquent, j'ai décidé d'écrire ce que l'on pourrait appeler la limite du descriptible, en utilisant tous les moyens littéraires qui nous permettent d'approcher la réalité en montrant sa richesse.
Które nam pozwalają zbliżyć się do tego, żeby pokazać całe bogactwo.
Au service de l'agence de presse officielle de la Pologne socialiste et pauvre, Kapuscinski veut devenir célèbre. Avec très peu de moyens, il est chargé de rendre compte de l'actualité du continent africain en pleine décolonisation.
Le problème s'est posé pour moi lorsque j'ai commencé à m'occuper du tiers-monde. En effet, en Europe, il est facile de trouver des correspondants, parce que l'Europe possède une civilisation commune. En revanche, là-bas, nous sommes en contact avec un tout autre monde. Et ce fut un problème pour moi. Pourquoi suis-je parti dans le tiers-monde ? Je suis allé dans les pays du tiers-monde parce que nous étions la moitié du XXe siècle. Et que le monde vivait un grand processus de décolonisation. Un énorme processus de changement d'identité pour toute notre planète. Autrefois, au début du XXe siècle, notre planète était composée d'un groupe de pays indépendants, en majorité européens. Et le reste du monde était dépendant d'une manière ou d'une autre. Au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, nous assistons donc à ce large processus de décolonisation. Un grand nombre de pays, d'États, de continents obtiennent l'indépendance et deviennent citoyens du monde, au moins de manière formelle. Et cela m'a tellement fasciné, ce réveil de l'homme nouveau, ce réveil des nouvelles sociétés, que j'ai considéré qu'il s'agissait d'un moment historique des plus intéressants, lorsque je commençais mon travail de journaliste. Je suis historien de formation, diplômé de la faculté d'histoire. À l'époque, j'avais le choix suivant. Soit rester à l'université et continuer mon travail d'historien, m'occuper des archives, des documents, écrire des manuels d'histoire, soit aller regarder l'histoire en train de se faire, l'histoire dans la vie. Observer cette histoire vivante, comment elle est créée par les hommes et par les sociétés. Et ce fut tellement attrayant pour moi que j'ai voulu devenir l'historien de cette époque, de tout ce processus. Nous percevons souvent le XXe siècle comme un siècle de totalitarisme, siècle de guerre. Nous le percevons de manière très négative, comme le siècle du mal, des camps de concentration et des goulags. Mais pour de nombreux peuples du monde, ce même XXe siècle est un siècle de libération. Lors de ce XXe siècle, toute notre planète se façonne. Elle obtient l'indépendance politique. Autrement dit, c'est un fait unique dans l'histoire du monde. Un processus tel que la décolonisation de l'après-guerre ne s'est jamais produit avant dans le monde et ne se produira plus jamais. Et du point de vue professionnel, je suis un homme heureux. Un homme qui s'est efforcé d'être en quelque sorte le chroniqueur de ce phénomène. C'est-à-dire montrer comment l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine ont obtenu ce nouveau statut d'une existence nouvelle et indépendante.
Le témoignage unique de Richard Kapuscinski, recueilli par Brice Couturier en 2003 pour France Culture. Un document rare qui nous permet de comprendre comment Kapuscinski avait pressenti l'arrivée d'une nouvelle époque et avait élaboré une nouvelle écriture pour la raconter. Une écriture hybride où règne la confusion des genres entre le roman et le reportage. Est-ce que vous pourriez dire que la forme du film Another Day of Life épouse non seulement le fond, mais aussi la forme de l'écriture de Kapuscinski, Isabelle Vanini?
Oui, je pense que c'était l'idée du film, en tous les cas, de ne pas raconter juste comment Kapuscinski a couvert la guerre en Angola, mais de partir de ses écrits et du coup de sa manière de raconter la guerre. Le film n'est pas à proprement parler une adaptation du livre puisqu'il apporte bien d'autres choses dont les protagonistes encore vivants qui témoignent aujourd'hui. Mais oui, c'est l'idée de raconter à sa manière et de manière visuelle, onirique, cette guerre-là, comment il l'a vécue avec tout le langage que permet l'animation.
Je rappelle donc que le film Another Day of Life est présenté en ouverture du Carrefour de l'animation. Ce sera le mercredi 12 décembre au Forum des Images à Paris. Des bandes son de films d'animation entre vos oreilles afin d'évoquer avec notre invitée Isabelle Vanini une petite histoire du documentaire animé qui nous intéresse beaucoup. Alors sur le fond, est-ce que l'animation, qui est une pure invention technologique, peut rendre compte du réel?
Ben apparemment oui, puisque de plus en plus de documentaires utilisent l'animation et donc s'affranchissent de cette espèce de dogme qu'il faut capter le réel et qu'on ne peut filmer que le réel si on veut faire du documentaire. Alors au début de ce documentaire animé dont on a parlé dans le court-métrage, les purs et durs du documentaire, moi je me souviens que j'avais organisé une table ronde et les gens du documentaire ne voulaient pas participer à cette table ronde, en disant « c'est une hérésie, parler de documentaires animés ». Je pense que depuis, ils se sont assouplis et l'animation arrive aussi dans les festivals de documentaires, ça c'est intéressant. Un film comme Jasmine du ghetto est passé d'abord par un festival de documentaires avant d'arriver en animation, ce qui était un processus intéressant. En tous les cas, oui, on se rend compte de tout ce que peut apporter l'animation, notamment cette notion d'image manquante, de reconstitution de la mémoire, il y a plein de façons, grâce à l'animation, de faire un travail documentaire.
Et au fil de cette histoire, un film fait date et référence, c'est Vals avec Bachir. Le film se déroule lors de la première guerre du Liban. Le réalisateur israélien Ari Folman avait 22 ans et il essaie de se souvenir du massacre de Sabra et Shatila, effacé de sa mémoire.
Je ne sais pas si ça a duré une éternité ou une minute, mais je revois Frenkel au carrefour, avec des nuées de balles qui sifflent autour de lui. Et au lieu de traverser la rue au pas de charge, il se met à danser, comme un possédé. Il leur montre qu'il n'a pas l'intention de quitter la rue, qu'il entend bien y rester, pour toujours. Il veut danser une valse entre les balles, avec les portraits géants de Bachir autour de lui. Alors qu'au même moment, à 200 mètres de là, les fidèles de Bachir préparent la vengeance, préparent le massacre dans les camps de Sabra et Shatila.
Extrait de Vals avec Bachir, un titre en référence aux 3000 Palestiniens massacrés en septembre 1982 dans une opération téléguidée par Israël et exécutée par ses alliés, des milices chrétiennes, pour venger l'assassinat de Bachir Djemayel, chef des forces libanaises, assassiné lui à la veille de son entrée en fonction à la présidence de la République. Pourquoi, Isabelle Vanini, dit-on qu'il y a un avant et un après Vals avec Bachir?
On peut dire qu'en long métrage, en tous les cas, c'est le premier exemple de documentaire animé arrivé à ce point de maturité, quoi. C'est vrai que le film aurait pu être un documentaire classique, puisque le réalisateur est allé filmer donc ses compagnons de l'époque et essaye de se souvenir, puisqu'il ne se souvient plus s'il était là ou pas. Donc toutes ces images existent, c'est-à-dire que tout le film, il aurait pu le faire en documentaire. Il a des dizaines et des dizaines d'heures de rush, mais il s'est rendu compte que ça ne rendrait pas compte, en tous les cas, de tous ces cauchemars, de toutes ces hallucinations et de tout ce travail de remontée des souvenirs qui venaient au fur et à mesure des interviews. Et il a eu cette idée géniale, en fait, d'utiliser l'animation. Donc, il utilise la même technique que Another Day of Life, hein, c'est de la motion capture aussi. Donc, les images documentaires existent, hein, elles sont redessinées. Mais il y a toute cette partie onirisme, hallucination, cauchemar, remontée du souvenir, flashback, qu'il n'aurait jamais pu montrer dans le film et qui apporte tant au film jusqu'à... ces images, le seul moment, alors c'est des images qui ont été très controversées, tout le film arrive à ces images-là, c'est-à-dire les vraies images réelles du massacre. Alors aurait-il dû les mettre ou pas? Il y a un débat. Moi je trouve que tout le film doit arriver à ça, évidemment.
Alors cette question de la reconstruction de la mémoire grâce à l'animation, c'est le cas également de Samouni Road, le dernier film de Stefano Savona. Le réalisateur du fabuleux Place de la Libération sur la révolution égyptienne de 2011, il s'intéresse à un autre épisode, cette fois, de l'histoire du Proche-Orient. C'est celui vécu par la famille Samouni dans la périphérie de Gaza. Il s'agit de l'opération israélienne Plomb durci, c'est-à-dire la campagne militaire menée par Israël afin de mettre fin aux tirs de roquettes provenant de la bande de Gaza dans le sud du pays. Au centre de son film, la famille Samouni.
Je ne me souviens plus des histoires. Je ne me souviens plus d'aucune histoire. Je ne sais comment raconter une histoire.
Stefano Savona, où sommes-nous et qui nous parle?
C'est Amal, une petite fille de 11 ans dans le quartier de Zaitoun à Gaza en 2010. Quand j'ai filmé cette scène, j'ai compris qu'Amal était évidemment la protagoniste de mon film. J'avais déjà tourné dans cette histoire depuis un an presque. Et là, la fille qui parlait très peu, parmi ses frères, où tout le monde était capable de raconter son histoire avec beaucoup de mots, elle n'y arrivait pas, elle parlait très peu, avec des mots très simples. Et là, je me suis dit, mais c'est évident que c'est ses mémoires que je devrais transformer dans le récit du film. Donc le défi pour moi a commencé à ce moment-là, de trouver une forme exacte, la plus exacte possible, au souvenir d'Amal qui avait vécu cette histoire. En fait, j'ai compris un moment que je voulais raconter du point de vue d'Amal, parce qu'Amal représentait la survie. Et il cherchait de trouver sa place dans la société comme quelqu'un qui était considéré à moitié martyr. Sa mère avait collé sa photo sur les murs de la maison à côté de la photo de son père disparu et de son frère qui avait été tué aussi pendant le bombardement. J'ai senti qu'un des défis du film, c'était de la décoller de ses murs et de la remettre parmi les vivants.
Et de lui permettre de retrouver la mémoire. Combien de membres de la famille de Amal Samouni ont disparu pendant l'opération Plomb durci?
Il y a eu 29 morts, son frère et son père, et beaucoup de cousins, en fait, dans une famille élargie. Il y a eu 29 morts dans la famille Samouni, et dans sa famille à elle deux.
Et en particulier son papa.
Oui, son père Atey Assamouni et son frère Ahmed.
C'est mon père qui a planté cet arbre. Ces amandiers, c'est le seul souvenir qu'on a de lui. On va les garder toute notre vie.
Mahmoud, حفظ هالصورة.
Mahmoud, tu te rappelles de la sourate?
Mahmoud. 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 عارفين يا ولاد,
mes enfants,
الدنيا الواحد لازم يعرف يحكي.
Vous devez apprendre à bien parler.
اللي مش فهمان وما بعرفش يحكي.
Celui qui ne sait pas raconter,
بيطلع الزلم,
n'est pas un homme.
بيطلع بهيب,
c'est une bête.
On vient d'entendre le passage d'une scène réelle, Stefano Savona, de votre documentaire Samoni Road, à un passage en animation. Pourquoi avez-vous fait ce choix?
J'ai connu les enfants Samoni, surtout pas encore à Mal, mais son frère Fouad. Et tout le monde racontait cette histoire, qui est une histoire tragique, mais avec des mots qui me frappaient par leur précision, par leur force d'évocation, parce que ce n'étaient pas des mots idéologiques. Alors que j'avais entendu pendant la guerre, et même après, beaucoup des comptes rendus, des récits de ce qui venait de se passer, où je pouvais immédiatement repérer un certain nombre de clichés, des aspects idéologiques tout à fait raisonnables vu le contexte, mais qui faisaient que j'entendais des histoires, c'était toujours la même histoire. Mais les Samouni avaient une manière de se raconter qui était très particulière. Et je me suis dit, pourquoi ces enfants racontent comme ça? Et là, vite, la figure du père, d'Atey, qui avait une personnalité très forte, ça se voyait immédiatement. Donc ça ressurgissait et à chaque instant dans les récits des enfants. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut chercher. C'est cette génération-là qu'il faut raconter.
Stefano Savona, le père, dans cette séquence d'animation, qui est une séquence onirique qui évoque le souvenir du père de Amal, il dit « Celui qui ne sait pas raconter n'est pas un homme ».
En fait, comme dans les autres animations, je me suis basé sur les mémoires des enfants et des autres de la famille pour reconstruire cette figure du père. Et les mots que le père utilisait avec ses enfants, c'était quelqu'un qui tenait beaucoup à cette unicité de la famille, de sa propre mémoire, et le fait que quand même il fallait être capable de se raconter, de se détacher des autres par sa propre rhétorique et capacité de se raconter. Donc, vu que là c'est une question de narration et que les pères n'étaient plus là, je me suis dit que le film doit trouver dans la forme cinématographique un double de la manière qu'aurait eu le père lui-même de raconter cette histoire.
D'où le choix de Simone Massy, donc, qui est un artiste qui crée 40 minutes d'animation dans votre film avec une technique où l'on gratte au fond une peinture noire pour faire apparaître en blanc un dessin. Est-ce que cette technique de gratter, de fouiller, vous qui êtes archéologue de formation, peut être une image, une métaphore de vous, le cinéaste, qui allez fouiller la mémoire, et puis de ces habitants qui vont fouiller leurs décombres?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, moi je voulais une technique qui puisse reconstruire la mémoire, réanimer la mémoire, et sentir à la fois la difficulté de ce processus. Donc mettre en scène à la fois la mémoire et comment la mémoire ressort. Et la mémoire n'est pas gratuite, je ne sais pas comment dire. La mémoire, ça se négocie avec, sur un fond noir, que c'est celui de l'oubli, du traumatisme dans ce cas. Et moi, j'ai filmé beaucoup les enfants qui cherchent de gratter sur la terre, de redessiner sur la terre, et sur les sols, dans les sables qui leur arrivaient. Ils dessinent, après ils s'effacent, après ils dessinent à nouveau, parce que ce n'est pas quelque chose qui est évidente. Et cette difficulté dans la recherche de la mémoire était aussi importante que la mémoire elle-même. Et je trouve que cette technique, dans sa difficulté de réalisation, c'est une technique très difficile, très lente, et qui montre les limites du réalisme dans la mémoire, parce que la mémoire est à la fois très réaliste et par sa nature complètement irréaliste.
Ce sont les Israéliens. Ils avaient des casques comme ça. Ici, ils sont en train de tirer sur ton père. Où il a été blessé, ton père ? À la tête ? D'abord ici. Non, c'est du rose, pas du rouge. Il écrit en rose.
La guerre, à hauteur d'enfant, se raconte aussi par les dessins d'Amal Samouni, dont la tête est criblée d'éclats d'obus, tout proche de ses yeux qui souvent la font souffrir. À force de patience et de temps passé avec les survivants de sa famille, Stefano Savona a reconstitué le jour de l'attaque de la maison. Il a enquêté auprès des services de la Croix-Rouge. Il a également épluché les commissions d'enquête militaire de l'opération Plomb Durci. Il a ainsi reconstitué l'attaque, minute par minute. Un soldat israélien frappe à la porte et fait sortir les hommes. C'est là que le père de Amal est tué. Une scène entièrement reconstituée virtuellement où la famille de Amal apparaît en animation, tandis que l'image froide et technologique des drones israéliens est également reconstituée virtuellement.
Déjà, c'est sûr qu'il n'y avait pas de combats dans les quartiers, ça c'est avéré par tous les comptes rendus, même celui israélien. À un moment, ils sont interprétés pour un lance-roquette, des bâtons, des planches de bois que quelques membres de la famille Samouni avaient été en train de détacher et du mur qui entourait la maison pour faire un petit feu pour cuire les galettes pour manger, c'était tôt le matin. Et ça a été interprété par quelqu'un qui regardait des images des drones comme des possibles lance-roquettes. Donc l'ordre était donné par quelqu'un qui occupait des positions dans les quartiers, donc aurait pu partir contrôler, voir si vraiment c'était des hommes armés et qui se déplaçaient dans la cour de cette maison. Mais pour excès de sécurité, pour excès de prudence, il a donné l'ordre de tirer sur la maison. Et un hélicoptère qui survolait la maison en ce moment a tiré. Donc c'est à cause de ça que 24 membres de la famille sont morts. Et après, les pilotes de l'hélicoptère, après avoir demandé de contrôler s'il y avait des civils dans la maison, il a pu voir lui-même avec ses propres yeux des civils qui sortaient de la maison. Donc il a refusé de tirer une deuxième ou une troisième fois comme son commandant lui avait commandé. Et c'était de son droit parce qu'en fait s'il avait la certitude qu'il y avait des civils dans la maison, il pouvait décider de ne pas tirer. Et paradoxalement, c'est lui qui a tué la plupart des membres de la famille de Samouni. Il en a sauvé aussi potentiellement des centaines, parce que s'il avait tiré à nouveau dans la maison, il aurait pu tuer des autres douzaines.
Stefano Savona, tout au long de votre film Samouni Road, vous proposez finalement à cette petite fille, à Mal et plus largement à sa famille, de se souvenir. Vous avez pris beaucoup de temps, vous les avez filmés dans leur vie quotidienne avant la catastrophe. Vous avez reconstitué avec eux et avec vos enquêtes la catastrophe, et vous avez également filmé après la catastrophe. Nous entendons la voix d'un petit frère de Amal qui chante son père, la mémoire de son père, comme un martyr. Bien que votre film ne soit pas un film politique, bien que les Samouni soient des paysans qui essaient tant bien que mal de se reconstruire en fouillant leurs propres décombres, est-ce que néanmoins, comme tous les Palestiniens de Gaza, cette expérience de la violence dès l'enfance n'est pas une fabrique irrémédiable de la vengeance?
Je ne sais pas si c'est irrémédiable, mais c'est très puissante, effectivement. Et je pense que qui raconte cette histoire a la responsabilité de ne pas participer à ces processus, de ne pas devenir complice involontaire de ces processus de reproduction de la vengeance, de la haine, de multiplication de la haine. Il faut faire barrage, mais pas pour des raisons idéologiques, pour être fidèle à la réalité. Moi, j'ai cherché de raconter la génération d'avant fidèlement avec ses propres... chercher les mots du père, les mots de l'oncle et leur vraie personnalité. Et cela était largement suffisant pour s'opposer aux tentatives de récupération de leur personnalité comme des martyrs de la résistance ou des martyrs politiques par les gens au pouvoir après la guerre. Donc les Hamas, dans les cas de Gaza, les Hamas, c'est les djihad islamiques qui cherchent de récupérer la mémoire des martyrs en les transformant en des martyrs combattants quand c'est des victimes civiles et involontaires du conflit. Et montrer ça sans s'expliquer quel est le processus qui a mené à ça, sans s'expliquer qui était vraiment de leur vivant, des protagonistes de cette histoire, contribue sans les vouloir à perpétuer des affrontements idéologiques qui sont quand même la vraie tragédie de cette guerre où on ne peut pas sortir du conflit parce que chaque génération ça s'enfonce, ça s'extrémise même dans cette conflictualité. Donc moi je pense que les films devaient utiliser toutes les techniques possibles de reconstruction pour rendre justice à la génération d'avant, du père d'Amal, de l'oncle d'Amal, donc les disparus de la famille Samouni, qui maintenant ne sont pas là pour nous raconter leur point de vue, pour nous raconter leur interprétation de ces conflits, et qui n'étaient pas du tout celui des gens qui sont au pouvoir en ce moment à Gaza, donc du Hamas ou du parti de l'islam politique qui ont saisi le pouvoir il y a quelques années dans la bande de Gaza. Donc, je pense que c'était la seule justice que moi, comme cinéaste, je pouvais contribuer à donner à cette histoire.
La scène de mariage dans la famille Samouni à Gaza clôt le film de Stefano Savona intitulé Samouni Road. Vous trouverez des photographies et des extraits de ce documentaire magistral sur la page Facebook de La Marche du Monde, un documentaire récompensé par l'œil d'or de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, Isabelle Vanini, qui utilise l'animation, mais également avec une bande-son extrêmement élaborée.
Oui, c'est vraiment un travail tout à fait remarquable de Stefano Savona. Il a filmé cette famille Samouni au moment du drame. C'est un documentariste qui a beaucoup travaillé dans l'urgence de la guerre. Mais là, étonnamment, il a décidé de tout arrêter, de garder ces images qu'il avait filmées et de revenir un an plus tard pour ce mariage et de prendre le temps de faire un vrai film sur les Samouni et de leur redonner leur mémoire et de refaire vivre ce drame en prenant son temps avec cette animation de Simone Massi qui est absolument magnifique. Simone Massi est quelqu'un qui travaille le monde paysan en Italie et comment il a pu dessiner ces Palestiniens qui sont loin de sa vie. Hein. Il vit en Italie dans un tout petit village, mais en même temps, tout ce qu'il connaissait du monde paysan, il a réussi à le retranscrire dans son animation tellement étonnante. C'est un film qui prend son temps et qui a une trajectoire tout à fait exemplaire qu'on comprend en le voyant.
Alors je vous propose, Isabelle Vanini, de revenir à votre programmation Carrefour du cinéma d'animation avec deux films que vous aviez envie de nous présenter et qui nous permettent justement de nous interroger sur le rôle de l'animation et du documentaire animé dans l'écriture de l'histoire. Le premier, c'est Wardi, pour rester sur l'histoire des Palestiniens, mais cette fois, c'est sur les Palestiniens exilés au Liban depuis la Nakba de 48, l'événement original et traumatique vécu par celles et ceux qui ont dû fuir leur pays lors de l'indépendance d'Israël.
On était le 15 mai, le jour de la catastrophe. J'avais encore tellement de choses à dire à Sidi. Je voulais lui parler de l'école, de mes amis, de Yassar en Suède et de son bébé trop mignon. Des nouvelles dents de Lutfi. Et même de mamie qui veut repeindre sa cuisine. Le garçon qui a pris une balle n'est pas mort. Sidi a fini par retourner chez lui. Sur mon passeport, il y a écrit « réfugié ». Mais maintenant, je sais d'où je viens. De Palestine.
À vous la parole, Isabelle Vanini. Wardi.
Alors, Wardi, c'est un film destiné au jeune public. Donc, c'est assez étonnant sur une thématique comme celle-ci de vouloir raconter une histoire au jeune public, mais c'est un choix qu'a fait le réalisateur. Donc, il a choisi de raconter cette histoire du point de vue d'une petite fille de 11 ans en marionnette. Donc, c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas habitués à voir des films en marionnette, il y a un petit temps d'adaptation, avec une partie aussi image d'animation 2D traditionnelle pour les flashbacks. Il faut se mettre à hauteur d'enfant, une enfant qui essaye de comprendre son passé, le passé familial, d'où elle vient. C'est un film un peu pédagogique, mais tout à fait étonnant, qui montre que le cinéma d'animation, y compris pour le jeune public, peut servir à raconter des histoires et l'histoire avec un grand H, en fait.
Et notamment celle des Palestiniens de 48 qui sont en tasse dans ces camps de réfugiés, ou d'ailleurs, c'est le titre d'ailleurs en anglais, hein, The Tower, où d'ailleurs les immeubles, à chaque génération, prennent un étage.
Voilà, et du coup, l'animation en volume permet de bien montrer ça de manière artisanale, en construisant ces décors de briques et de brocs qui montent et qui s'amenuisent.
Et votre deuxième choix, c'est Funan de Denis Do, un film qui ouvre sur l'exil forcé des habitants de Phnom Penh vers les campagnes cambodgiennes lors de la prise de la ville par les Khmer Rouges en 1975.
Il faut manger toutes.
Qu'est-ce qui va nous arriver? Où est-ce qu'on va aller maintenant? Ils bloquent tous les accès à Phnom Penh. On a entendu tellement de choses sur les communistes.
Hier, ils ont emmené des hommes, plusieurs. Ils sont toujours pas revenus.
Ils nous manipulent depuis le début. Cette histoire de bombardement, c'était un leurre. Ils n'ont jamais eu l'intention de nous renvoyer à Phnom Penh. Il faut qu'on réagisse.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a des patrouilles partout. On peut pas s'écarter d'un mètre sans qu'ils nous tombent dessus.
Et on va faire quoi alors? Attendre que ça dégénère? On va pas continuer d'obéir à ces tarés quand même.
Ça suffit, Meng. Écoute ton frère. On n'est pas loin de Koh Tom. On pourrait essayer d'aller chez le cousin Sok. On aurait au moins un toit et de la nourriture.
L'armée des communistes cambodgiens, surnommée quelques années plus tôt Khmer Rouge par le roi Norodom Sihanouk, a gagné le pouvoir au terme d'une guerre civile de 5 ans. Le soir même, les Khmer Rouges décident de vider la capitale cambodgienne de tous ses habitants. C'est le début d'une orgie de massacres qui va se solder par la mort violente de 1 500 000 à 2 200 000 personnes en 44 mois, jusqu'à la chute du régime le 7 janvier 1979. En d'autres termes, 20 à 30% des Cambodgiens. Et ce film, Funan, nous propose une histoire intime de ce génocide. C'est l'expérience vécue de la mère du réalisateur, Isabelle Vanini.
Oui, tout à fait. Denis Do est un jeune réalisateur. Son premier long métrage, il a réalisé que des films de fin d'études, mais il a été remarqué. Et un producteur qui a vu qu'il avait cette histoire à raconter, qui lui tenait à cœur, qu'il avait un univers graphique très fort avec ses paysages cambodgiens, a décidé de lui faire confiance pour faire ce qui n'est pas tout à fait un documentaire animé, parce que le film se présente comme une fiction dessinée de manière assez classique, mais c'est vraiment l'histoire de sa mère, et lui, c'est l'histoire de sa quête, puisque sa mère ne racontait que des bribes de cette histoire. Elle avait vraiment du mal à lui raconter toute l'histoire, et lui avait besoin de reconstituer. Donc il est allé là-bas, il a interrogé des tas de gens, et petit à petit, il a reconstitué ce qui s'était passé, ce qu'avait vécu sa mère, et il a eu envie donc de le retranscrire dans un film qui, là encore, s'adresse à des jeunes ados et adultes. Donc c'est aussi l'idée de faire acte de pédagogie aussi, de raconter aux jeunes d'aujourd'hui ce qui s'est passé au Cambodge et ce que ces gens ont vécu du jour au lendemain. On le voit dans le film, hein, du jour au lendemain, votre vie change, vous vous retrouvez dans des camps à mourir de faim. Les enfants sont arrachés aux parents. On le vit vraiment dans le film. Enfin, on a l'impression d'avoir faim, on a l'impression de maigrir, on a l'impression de vivre ce qu'ils vivent. C'est très réussi, c'est très fort et c'est un premier long métrage tout à fait étonnant de ce jeune réalisateur qui a encore beaucoup de choses à dire sur ses origines, je crois.
Et c'est d'autant plus intéressant que le Cambodge, justement, souffre d'un effacement de la mémoire, et on voit bien que la deuxième, troisième génération part sur les traces de ces mémoires familiales, et ça passe souvent par une tentative d'interrogation des membres de la famille qui, la plupart du temps, n'ont jamais rien dit en ce qui concerne les survivants.
Chez lui, c'est vraiment, il a eu énormément de mal apparemment à faire parler sa maman de toute l'histoire. Il n'a eu que des petits morceaux.
Alors finalement, Isabelle Vanini, pour ce carrefour du cinéma d'animation, vous avez sélectionné des œuvres de cinéastes aux convictions fortes, où, moi j'y suis particulièrement sensible, la dimension du témoignage est souvent au cœur des films.
Oui, c'est une tendance actuellement du long métrage d'animation adulte, on va dire, qui va vraiment sur des histoires vraies, sur un mélange des genres entre des images documentaires, des images dessinées. Le Festival d'Annecy cette année présentait beaucoup plus de films encore et montrait un état du monde, des questions géopolitiques graves à travers des longs métrages d'animation. C'était tout à fait étonnant. Et dans la production à venir, il y a encore énormément de films qui vont arriver, qui vont parler de questions graves d'une manière étonnante. Ça peut être effectivement de la marionnette, ça peut être de la 3D avec un langage un peu jeu vidéo comme Another Day of Life, ou ça peut être de manière très poétique. Enfin, c'est tout à fait étonnant et ça plonge le spectateur dans cette réalité d'une autre manière qu'en regardant un documentaire plus traditionnel.
Et ce qui nourrit votre passion pour ce genre, est-ce que c'est aussi parce qu'il permet justement une imagination qui nous relie à notre plaisir d'enfance au cinéma?
Oui, c'est un rapport aussi qu'on peut avoir au dessin d'enfant, à la manière dont chacun on peut avoir envie de raconter et qu'on retrouve de mille manières. C'est aussi une manière de pouvoir représenter ce qu'on ne peut pas représenter, quoi, ce qu'a des souvenirs, ce qu'on a rêvé, ce qu'on a cauchemardé, ce qu'on a halluciné. Enfin, ça, on ne peut pas le montrer en image réelle. Et l'animation, en fait, permet d'une manière poétique ou d'une manière choquante de montrer des choses et de mettre à distance en même temps. On peut montrer des choses tout à fait horribles. En le dessinant, on le met un petit peu à distance. Ça devient plus supportable et pour raconter certains drames, hélas, du monde, ça peut aider à raconter.
Merci Isabelle Vanini et à toute l'équipe du Forum des Images. Merci également à Lina et à la Sonothèque de RFI. Ainsi s'achève cet épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin. N'hésitez pas à réagir sur notre page internet et Facebook où vous trouverez encore plus d'informations. Écrivez-nous, podcastez cette émission, c'est la vôtre.